On va parler un peu de reconnaissance, ça ne va pas être le sujet principal, mais c'est la base. C'est vraiment la base. Les 5 derniers dimanches, 5, nous avons parlé de l'Église, du sens de l'Église, à travers des prédications de Jeff et puis de Jean-Phi, dimanche dernier. Et nous voilà le 1er septembre, une période de l'année couramment propice au renouvellement des affaires scolaires, les trousses, les cartables, parfois des réorientations professionnelles. C'est une période de l'année qui est propice à des changements de toutes sortes. Et on se demande, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Et j'aimerais ce matin qu'on puisse parler de la manière dont nous pouvons discerner la volonté du Seigneur pour nos vies. Comment discerner la volonté du Seigneur pour ma vie, dans ma vie familiale peut-être, avec les changements qui vont s'imposer, dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'église auprès de mes frères et sœurs? Comment discerner ce que Dieu attend de moi, que je fasse ou que je ne fasse pas? Est-ce que je suis actuellement dans sa volonté ou est-ce que je ne le suis pas? J'aimerais que ça puisse être un fil rouge ce matin, la volonté, discerner la volonté du Seigneur. Et on va développer ça en 3 points à partir du texte qui se trouve en Romains 12, les versets 1 et 2. Et on n'aura pas le temps de faire plus que ça ce matin. On va développer ça en 3 points ainsi que la motivation qui se trouve derrière. Et on en a déjà parlé ce matin, vous allez voir. Romains 12, les versets 1 et 2, je lis dans la version Second 21. C'est Paul qui parle, l'apôtre. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous encourage. Dans ce mot « encourager », il y a plus que simplement donner une information, ou énoncer un fait, ou même montrer, ou démontrer, ou prouver. Le mot grec en fait qu'il utilise là, qui est le mot « parakaleo », signifie « exhorter instamment ». Prier. Supplier, fortifier. Et on est là vraiment au cœur de la prédication. La prédication, ce n'est pas simplement donner une information. La prédication, alors on le lit, Paul le dit en Timothée, hein, en Timothée, il dit ça, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage, fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. » On est là un peu comme la proclamation des héros. Alors je ne parle pas d'Iron Man. Vous savez, les héros qu'il y avait dans les temps anciens, quand il n'y avait pas la télévision, ou la radio, ou Internet. Et ils venaient sur les places des villes et les gens se rassemblaient autour d'eux parce qu'ils savaient qu'une information importante allait leur être délivrée. Ils disaient « Oyez, oyez, braves gens, écoutez, écoutez, voilà ce que le roi vous annonce. » Et ce matin, je suis un peu comme ces anciens héros. Une proclamation à faire, un encouragement à vous donner avec formalité, avec gravité. Pas juste expliquer un passage, mais plaider avec vous afin que vous puissiez le mettre en application. Parce que c'est tout ça le but de la prédication. Ce n'est pas que vous arriviez et que vous repartiez sans que rien n'ait changé. Mon but, le but du Seigneur à travers moi, par son esprit, c'est que vous puissiez recevoir cette information, qu'elle vienne vous toucher émotionnellement et transformer votre volonté afin que vous puissiez la mettre en application pour sa gloire. Et donc ça veut dire que vous devez venir dans un certain état d'esprit également, et je dois être dans ce même état d'esprit. En fait, nous devons avoir faim et soif de la parole de Dieu. Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi, et je lui donnerai de l'eau. Vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif, venez et mangez et buvez, rassasiez-vous. Donc il faut avoir faim, il faut avoir soif, il faut préparer son cœur pour l'écoute de la parole de Dieu. Voilà la manière dont nous devons venir le dimanche matin, et chaque fois que nous allons rencontrer le Seigneur, quotidiennement, écoutez avec foi et le désir d'obéir. Mon Père, mon Créateur va me parler. Vais-je rester les bras croisés ? Le désir d'obéir, mais pas demain ou après-demain ou dans un mois, mais immédiatement. Je me rappelle, alors dimanche dernier, c'était assez... J'avais pas encore le texte de ma prédication, ça faisait des semaines qu'on me demandait, alors sur quoi tu vas prêcher, et puis j'étais là, je sais pas, j'attendais que le Seigneur me parle, qu'il me donne ce texte pour ce matin. Et puis Sophie m'appelle, elle me dit, on n'a toujours pas de président de culte, on va faire un culte sur la reconnaissance peut-être, est-ce que tu penses que ça pourrait coller avec ton thème? Je dis, ben justement, je voulais encourager, donc ben, j'attends que le Seigneur me donne le texte. Et le dimanche soir, alors on avait reçu un message, alors une présidence dans le calme et la confiance. Alors moi j'étais tenté, comme souvent vous savez, il faut que je trouve un texte, alors je vais aller prendre un texte qui va, et puis on va prêcher là-dessus. Et puis le Seigneur m'a dit non, attends, dans le calme et la confiance. Et le dimanche soir, dans notre prière familiale, j'ai reçu un verset. Enfin je me suis, c'est bizarre, je me suis vu prêchant le verset, mais ça arrive souvent ça. Et du coup... j'ai dit, ça y est, c'est bon, Romains 12. Je sais que le Seigneur va parler ce dimanche-là au travers de Romains 12. Alors, ça fait suite au chapitre 11. Le chapitre 12 fait suite au chapitre 11. Paul vient de construire toute une argumentation au chapitre 11. Il vient de parler des compassions de Dieu. Et on en a beaucoup parlé ce matin déjà. On va les approfondir un peu plus. Et c'est essentiel parce qu'il construit toute son argumentation là-dessus et on va y revenir. Je vous encourage donc, frères et sœurs. On a parlé des frères et sœurs pendant 5 dimanches. La famille de Dieu. Paul nous rappelle que nous faisons partie d'une même famille. Il s'adresse à chaque membre de cette famille. Ces membres se doivent compassion, amour inconditionnel, pardon, compréhension, écoute. En fin de compte, un amour qui, à l'image de Christ, donne sa vie pour les autres. Un amour sacrificiel. Un amour qui ne prend pas, mais un amour qui donne. Et si vous ne faites pas partie de la famille de Dieu aujourd'hui, si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas né de nouveau, en fait ce message n'est même pas votre priorité. Votre priorité c'est de naître de nouveau. Et immédiatement, parce que qui sait si votre cœur battra encore ce soir. Notre priorité c'est notre salut, la seule manière d'entrer dans la famille de Dieu à laquelle Paul s'adresse. Pour entrer dans une famille... il ne suffit pas de passer du temps avec la famille, ni même de faire des choses dans cette famille. Si je voulais entrer dans la famille Garp ou dans la famille Dari, il ne suffirait pas juste de passer du temps avec eux, ni même de les aider financièrement, ni même de passer toute ma vie avec eux. J'ai besoin d'un acte légal, j'ai besoin de signatures, de documents qui prouvent à la France et au monde entier et à toutes les personnes autour de moi que je fais partie de la famille Garp. Bon, ils sont au complet là, mais on ne sait jamais. Un document qui prouve que je fais partie de cette famille. Et alors, peu importe que je me brosse les dents, ou peu importe que je mette la table, ou que je me couche à l'heure qu'ils m'ont indiqué, je fais partie de la famille de toute manière. Il faut naître de nouveau. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu. Alors là, c'est la clé, la motivation. Les compassions de Dieu, quelles sont-elles? Si les compassions de Dieu ne nous encouragent pas, il n'y a rien qui va le faire. Encore faut-il les connaître et y avoir goûté personnellement. Il ne s'agit pas de connaître vaguement que Dieu est bon ou qu'il est généreux ou qu'il est fidèle. Dans la Bible, régulièrement, très souvent, le Seigneur dit « Souvenez-vous. Souvenez-vous que je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Souvenez-vous que je suis celui qui vous a fait traverser la mer Rouge. Souvenez-vous que je suis celui qui vous a donné la manne dans le désert pendant 40 ans. Souvenez-vous que je vous ai délivré de la main de vos ennemis dans le pays de Canaan. Les murs de Jéricho sont tombés grâce à moi. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. » Et on a encouragé à se souvenir ce matin, n'est-ce pas? Souvenez-vous. Alors dans le chapitre 11, il nous dit « Dieu vous a choisi, souvenez-vous-en. Il a fait preuve de bonté envers vous. Il a enlevé votre péché. Il a fait une alliance éternelle avec vous. Il vous a donné un nouveau cœur capable de l'aimer et de lui obéir. Et tout cela, il l'a fait gratuitement, par grâce, un cadeau que nous n'avons pas mérité. Et non seulement ça, mais encore, il fait battre votre cœur et fonctionner votre système nerveux de sorte que vous pouvez dire à votre corps ce que vous voulez qu'il fasse, et il le fera. Il vous donne la nourriture et il la transforme dans votre corps afin que vous ayez l'énergie nécessaire pour pouvoir faire ce que vous avez besoin de faire. Il vous donne tous les sens. Il vous offre la caresse du vent et la beauté d'un coucher de soleil. Il vous offre le scintillement des étoiles. Il vous offre la fraîcheur et l'odeur des forêts, le clapotis cristallin de l'eau d'un ruisseau qui bondit joyeusement sur les rochers, les innombrables goûts des fruits et des légumes sucrés et salés, la douceur de la peau de ton conjoint, de ta conjointe, l'éclat de rire de tes enfants. Et en plus de cela, tous les jours, un travail, un foyer, un pays en paix. Il t'entoure par devant et par derrière, de ses propres bras. Il t'instruit, te conduit, te conseille patiemment, te relève lorsque tu chutes. Il te prépare une place pour être avec lui pour toujours. Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Que mérite donc un tel Dieu? Qu'attend-il de nous? Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et c'est là notre premier point, offrir notre corps. Alors il ne s'agit pas seulement d'offrir notre corps physique, comme si on pouvait séparer notre corps de nos sentiments ou de notre volonté. Le corps représente notre ensemble de membres, c'est-à-dire notre vie tout entière. Offrir notre vie tout entière. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. En tout, tout en lui montrait qu'il était bien un homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort, sur la croix. Oui, à un tel homme. Un tel Dieu, homme, je veux offrir mon corps. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire du Père. N'offrirai-je pas ma vie sans retenue à celui qui s'est donné pour moi et qui a été élevé au-dessus de tout? Et notez cette comparaison avec un sacrifice vivant. Il y a là une notion de contrainte, une notion d'être lié à Dieu, comme souvent Paul l'exprimait. Un cœur qui est passionné de lui, rempli d'une telle crainte, d'un tel respect, d'un tel amour, qu'il ne peut rien faire d'autre en fait que de faire sa volonté. Mais cette volonté ne sera pas, vous savez, détestable ou difficile, elle va lui paraître bonne, agréable et parfaite. Je me rappelle quand le Seigneur m'a touché, il a véritablement transformé ma vie. J'avais des centaines de films et de séries et de diverses choses que j'avais téléchargées sur mon disque dur illégalement. Mais quand le Seigneur m'a transformé, quand il m'a touché, il m'a sanctifié. Il m'a dit, tout cela, tu t'en sépares. Tes licences de tes logiciels que tu utilises, tu vas les acheter. Et ça m'a coûté quelque chose. Ça nous coûte. C'est vrai que c'est gratuit, le don de Dieu est gratuit, mais ça nous coûte quelque chose, un renoncement à soi-même, un renoncement à nos mauvaises habitudes, à notre mauvaise manière de vivre. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Il a véritablement transformé ma vie. Et voyez la récompense, vous serez agréable à Dieu. J'aimerais que vous puissiez penser à Christ lorsqu'il te dira, Christelle, c'est bien, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Julie, c'est bien, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Dany et Don et David et Sylvie, vous avez été fidèles en peu de choses, rentrez dans la joie de votre maître. Quelle récompense! Ce sera de votre part un culte raisonnable. Dans la notion de culte, il y a la notion de louange et d'adoration, la notion de se consacrer à, de se dédier à. Et comprenez bien en fait que ce n'est pas raisonnable de se consacrer à son travail, par exemple, ou de se consacrer à sa famille, ou à ses amis, ou même à une église ou à un pasteur. Mais se consacrer à Christ, Voilà un culte raisonnable. Parce que nous perdons de vue l'objectif, ce pourquoi nous avons été créés. Pourquoi nous avons été créés ? Afin que, quoi que nous fassions, que nous mangions ou que nous buvions, nous glorifions notre Seigneur Jésus-Christ au travers de ma famille, au travers de mes amis, au travers de mon Église, par mon service. Ce sera un culte raisonnable. Cela signifie que nous devions sans cesse nous poser cette question. Est-ce que ce que je fais est raisonnable ou ce que je ne fais pas ? Et comment le savoir ? Nous lisons la suite. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Deuxième point, ne pas se conformer au monde actuel. Il s'agit d'une notion négative. Il ne faut pas faire quelque chose. Et ce n'est pas si étonnant en fait. Dans le psaume 1 par exemple, les versets 1 à 2, on lit ceci. Heureux l'homme qui fait quoi ? Qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Une interdiction. Dieu bénit d'abord l'homme qui ne fait pas certaines choses. Et il s'agit d'y veiller constamment, ne pas se conformer au monde actuel. Se conformer signifie s'identifier à, faire comme, ressembler. Il doit y avoir une différence évidente entre nous et le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde, nous sommes des anticonformistes. Jésus-Christ lui-même l'a dit, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. » Le monde actuel, ou le siècle présent, ça dépend des versions, représente la société ou le système qui a été mis en place par l'homme afin de trouver le bonheur sans Dieu. Et qui est le maître de ce système ? Il est appelé Dieu de ce monde, l'accusateur des frères, le prince de la puissance de l'air. Je veux parler du diable lui-même. Et qu'avons-nous à faire avec le diable ? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable ? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant ? Quel est mon comportement ? Est-ce que je parle comme le monde ? Est-ce que j'agis comme le monde ? Est-ce que je m'habille comme le monde ? Est-ce que je pense comme le monde ? Ou est-ce que je ne me conforme pas au monde actuel ? Christ est mort pour nous délivrer de ce siècle présent, de sorte que le monde est crucifié pour nous et que nous sommes crucifiés au monde. Nous avons été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, pour Dieu. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2, verset 15. Alors, nous avons vu qu'à cause des compassions de Dieu, il nous faut offrir notre corps en sacrifice vivant, il nous faut ne pas nous conformer à ce monde actuel, et le dernier point qui se trouve ici, c'est « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Être transformé. Comment est-on transformé ? On est transformé au contact d'une personne. Quand, vous savez, quand mes filles reviennent de l'école, puis qu'elles me sortent une expression bizarre, ouais, ça vous est déjà arrivé ? Ils arrivent et puis tout d'un coup, c'est plus les mêmes, vous savez. Et puis, tu n'as pas besoin de te demander d'où ça vient, c'est que c'est évident, elles ont appris au contact de leur copine. Au contact d'une personne, je suis transformé. Au contact de mon épouse, je lui ressemble. À mon contact, elle me ressemble. Au contact de Christ, je ressemble à Christ. Et il me faut passer du temps avec lui. Et alors, je lui ressemblerai. Alors, je serai transformé. Transformé à quoi ? À son image. Son caractère va jaillir à travers moi et retentir autour de moi. Et pour cela, Dieu nous a donné deux moyens de grâce. La lecture de la parole et la prière. Et il ne nous faut négliger ni l'un ni l'autre. Pour le connaître, si nous négligeons ces moments, ne nous plaignons pas de ne pas savoir ce que Dieu attend de nous. Mais si nous passons du temps avec lui, si nous lui demandons quelle est sa volonté, et si nous la recherchons au travers de sa parole, il nous conduira certainement par son esprit. Et il nous transformera par le renouvellement de notre intelligence à son image et il sera glorifié dans nos vies. Pour autant, je ne vous encourage pas à lire tout d'un coup 10 chapitres de la Bible par jour ou à prier 2 heures si vous ne l'avez jamais fait de votre vie. Il faut y aller progressivement quand même. C'est comme, vous savez, si on se disait pendant une semaine on va jeûner, alors demain on va manger, je sais pas moi, 10 kilos de nourriture. Comme ça, au moins, on sera sûr, on n'aura plus faim. Non seulement on va se rendre malade, mais en plus, on aura faim le lendemain. Allons-y progressivement, mais cherchons à connaître sa volonté. Passons du temps avec lui. Et certainement, il va nous renouveler, certainement, il va nous transformer. Alors, en conclusion, dans la suite de ce chapitre, Christ nous parle des dons dans l'Église et des frères et sœurs. Chacun a un don et qu'ils le mettent au service des uns des autres. Ce n'est pas anodin. La réflexion ici qu'on vous propose, elle est non seulement valable pour votre famille ou votre vie professionnelle, mais également pour l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Comment puis-je offrir mon corps en sacrifice vivant pour lui? Et qu'allez-vous faire de ce message? Je vous encourage donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.